Terra.
Bonjour, c'est le mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, je reçois au téléphone Frédéric Volovitch, chanteur et guitariste de l'artiste de la semaine sur votre antenne, le groupe Tourangeau Volo. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec un arrière-grand-père ukrainien et des parents professeurs, tout est réuni pour que le gouvernement et la famille Volovitch ne soient pas amis. Il y a toujours une certaine revendication à la maison et pas uniquement politique.
Écoute, oui, on est... Alors, Volo, c'est moi et mon frère, Olivier, qui vous passe le bonjour, mais qui est pas avec moi aujourd'hui. D'accord. Écoute, tous les deux, effectivement, on a grandi dans un univers à la fois où on nous a appris beaucoup à être curieux, à poser des questions, à essayer de comprendre dans quel monde on était, et sans qu'on nous force du tout la main, on a... De l'arrière-grand-père qui lui a vécu la révolution russe et ses tragédies. On a eu un grand-père qui lui a fait 36 et puis qui est un humaniste convaincu et qui a toujours milité pour plus de partage, plus d'égalité. Et voilà, après nos parents ont fait 68 et nous ont plutôt ouvert sur des possibilités de voir le monde autrement que dans la compétition, chacun pour soi, le vivre, le pognon, et voilà, donc on n'est pas tout seul, heureusement, à espérer un monde plus solidaire, et donc ça se sent dans quelques-unes de nos chansons.
Ouais. Alors je le disais en début d'émission, tu es originaire de Tours, hein, le fief pendant 36 ans du conservateur et réactionnaire Jean Royer, hein, plus connu pour ses idées moralistes que pour son amour pour les films pornographiques.
Ouais.
Même si ça fait 15 ans qu'il n'est plus maire, on sort forcément indemne de 20 premières années dans la préfecture d'Indre-et-Loire, c'était ton cas?
Oh oui, complètement. Oui. Non, on peut très bien grandir à Tours et évoluer sans jamais croiser les réseaux réactionnaires de Royer ou pas. Non, c'est... Il y a beaucoup de lycées, il y a une grosse fac. Moi j'ai aucun souvenir de Tours, c'est une ville bourgeoise. Tu vois bien que c'est pas un bassin industriel. Il n'y a pas 30% de chômeurs. C'est pas loin de Paris et du TGV. On a pu voir des concerts et grandir loin des discussions politiques qui, quand on est jeune, nous intéressaient peut-être moins.
Ouais. Ton frère Olivier et toi avaient toujours voulu embrasser une carrière artistique.
Le frangin, c'est plus récent. Moi, écoute, j'ai découvert le théâtre quand j'étais en seconde. Il y a un comédien qui est venu proposer un cours dans mon petit village et ça a été un déclic où je me suis dit que la scène allait m'intéresser. Donc après, j'ai fait d'abord du théâtre. Donc assez vite, j'ai dit à mes parents, avant 18 ans, j'ai dit j'aimerais bien devenir comédien. Et le frangin, lui, c'est arrivé plus récemment. Il a fait d'abord de longues études de philo jusqu'à la maîtrise. Il a tenté les concours du CAPES et tout, de la grègue. Il a pas eu ça pendant 3 ans. Et après, il a dit, qu'est-ce que je fais? Et comme il écrivait des chansons tout en bouquinant et tout en faisant ses études, j'ai commencé à chanter un petit peu avec lui. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire quelque chose tous les deux.
Alors toi, tu es monté à Paris, tu as intégré donc l'ENSAT, hein, l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, qui était longtemps surnommée la rue Blanche dans le milieu théâtral. Mm-hmm. À l'époque, les mots avaient plus d'importance que les notes, ou le théâtre mène à tout, y compris à la musique?
Oui, mon parcours, il a toujours été entre la musique et le théâtre, parce que j'ai eu mon bac à 3 théâtre, j'ai tenté l'école... de la rue Blanche à Paris parce que j'avais des copains qui y avaient été, et tout ça c'était à la fois réfléchi puis à la fois des successions de hasard. En même temps, au lycée, j'avais monté mon groupe avec des potes de rock, et puis je faisais de la batterie, donc ça m'éclatait donc oui, d'abord les mots, d'abord le jeu d'acteur, parce que c'est là où je me sentais le plus solide, on va dire. J'avais aucune je savais bien que les écoles de musique m'étaient pas du tout destiné, parce que j'avais aucune formation en lecture de musique, en musicologie, en histoire de la musique. Donc d'abord le travail d'acteur, et puis là les rencontres avec mes potes comédiens et potes de Tours avec qui on a monté après les Vrigueuses, qui étaient à la fois musical, à la fois du jeu.
Ouais. Alors que donc vous jouiez avec les Wriggles, enfin tu jouais avec les Wriggles. Ton frère Olivier est plus branché donc par les mots, tu disais la philosophie en particulier. Vous avez rejoint en tant que régisseur au
Ouais, t'es
départ.
très bien renseigné, bravo Michel.
Bien, merci. Et il a fallu que vous travailliez ensemble pour qu'une idée de collaboration artistique et musicale germe en vous, où vous étiez dit, comme dans la chanson de Francis Alan, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes. Tu verras, on se retrouvera.
Écoute, tac tac, dans quel ordre ça s'est passé? Non, non, mais quand le frangin il intègre l'équipe des Wriggles à la technique en tant que régisseur de tournée, à l'époque on joue déjà ensemble. On joue déjà dans des bars, on fait déjà on teste déjà nos chansons, puis on essaye de voir si, entre autres, si ça plaît à Olive, qui lui découvrait à ce moment-là la scène, le fait de jouer devant des gens et tout. Et puis assez vite, on s'est rendu compte que bah déjà on a été encouragé par nos proches, par les potes, par les gens qui découvraient. Voilà, on nous a pas jeté des pierres, on nous a pas jeté des tomates en disant dégagez, c'est trop pourri. Donc on a eu envie de continuer. Puis ça tombait bien parce que avec les Wriggles, on a toujours été dans le partage du temps, c'est-à-dire très investi dans notre aventure Wrigglesienne et puis pour la tournée, les albums et tout. Mais en même temps, on avait toujours besoin de quelques mois pour ne pas faire que ça, pour rencontrer d'autres gens, avoir d'autres expériences. Et donc sur ces dernières années, bah voilà, à chaque fois que j'avais du temps, moi en ce qui me concerne, c'était du volo qu'on essayait de défendre sur scène ou en studio.
Alors
Ai-je bien répondu à ta question ou est-ce que je l'ai perdu
Non, non, non,
dans
ça va,
c'est bon, ça va.
c'était bien. Alors, depuis 2001, donc, et parallèlement donc, à votre carrière au sein des Wriggles, Olivier et toi d'écrivez, enregistrez et jouez vos chansons. À côté écriture, c'est Olivier qui amène les chansons ou
Écoute.
vu que les mots, c'est lui le philosophe au départ?
Eh ben, écoute, oui, mais moi je trouve qu'on arrive à, pas avec nos textes, on arrive à voir quand même assez vite qui a pu les écrire. Après, il peut toujours y avoir des surprises. Écoute, on écrit chacun de notre côté la
D'accord.
mélodie et les paroles. Le but du jeu, c'est qu'une chanson qui est dans Volo doit impérativement plaire aux deux. Voilà, donc il y a des chansons que vous n'entendrez pas dans Volo, mais qui existeront peut-être dans un projet perso d'Olive ou de moi et tout. Il faut que la base, c'est que ça nous plaise à tous les deux. Et puis pour essayer de, voilà, si tu vois les albums, ça marche à tous les coups. C'est-à-dire si la chanson est chantée par Olive, est jouée par Olive, c'est clairement une chanson qu'il a écrite lui. Et si elle est jouée et chantée par moi, eh ben c'est une chanson que j'ai écrite. Après, on se mélange toujours là-dedans parce que nos deux voix se marient bien, on fait des chœurs, on peut se partager des couplets, quoi, mais la règle de la guitare marche bien. Si Olive a la guitare, c'est une chanson qu'il a faite.
Alors, on retrouve dans Volo, donc d'abord, et aussi, c'est normal, la voix des Wriggles, mais également cette façon d'écrire et puis de concevoir le monde, la théâtralité et les sketchs, forcément en moins.
Ah ben, complètement en moins, oui. On s'est un petit peu amusé à l'occasion de sortie d'album, on s'est amusé à faire des petites vidéos un peu marrantes pour Internet. Mais alors sur scène, on n'est pas du tout dans la mise en scène. Enfin, on a une création lumière et tout, ça bouge. Mais Olivier et moi, on s'amuse pas à jouer de personnages. Rien à voir avec les Wriggles là-dessus. Je suis complètement d'accord. C'était pas le but d'ailleurs.
Ouais. Alors, parlons d'album. Le troisième sorti il y a un an s'appelle En attendant. En attendant quoi? Le retour des Wriggles sur scène, un nouvel album, la fin de la crise financière, la révolution?
Ben écoute, t'as bien compris le principe. Ça peut être plein de choses en attendant que ça pète, puisque c'est ce qu'on raconte dans une chanson qui est sur la piste fantôme de cet album. Parce que voilà, quand il faut choisir un titre d'album, nous notre méthode avec Olive, c'est de pas trop chercher midi à 14h, c'est-à-dire de vous prendre le titre d'une chanson et qui devient le titre de l'album, c'est ce qu'on a toujours fait. Donc là, on trouvait qu'en attendant, ça ouvrait à pas mal de choses, et ça peut être entre autres ça, ouais, en attendant la fin de la crise financière, ou en attendant qu'on se bouge le cul pour leur faire comprendre qu'il va falloir qu'ils changent les règles du jeu. Ça peut être en attendant la tournée, ça peut être en attendant les changements climatiques, si on veut être encore plus dark que ça. Voilà, ça peut être plein de choses.
D'accord. Alors, je parlais de crise financière, le morceau régulé résume à lui tout seul votre pensée et puis la triste réalité du moment. Et vous êtes allé enregistrer la vidéo à La Défense, il me semble.
Oui.
Hein, le lieu symbole de ce capitalisme que l'on appelle aujourd'hui libéralisme. Vous avez même osé jouer devant et dans les banques. Vous n'avez pas eu d'ennui avec les gendarmes, qu'ils soient de la bourse ou de Brice Hortefeux?
Non, non, pas du tout. Non, non, il n'y a pas eu de. Nous, on était assez peu nombreux pour leur faire peur, et puis assez souriants pour qu'ils sentent que voilà, il n'y avait pas besoin de sortir les gros bras ou d'être violents, quoi. Nous, on était là pour. On savait assez vite, on leur disait qu'on était en train de tourner un clip et qu'on voulait chanter notre chanson chez eux, et assez vite, ils nous disaient que non. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Mais tu vois, c'était.
Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on ne voit pas souvent finalement à l'intérieur de la banque, des banques.
Hein. Exactement.
Hein, d'accord, je comprends mieux. Alors cette chanson régulée est presque un cours d'économie, je dirais. Je dis bien presque, hein, car vous employez des gros mots, je cite. Alors allez tous vous faire réguler, vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer, alors même les guitares deviennent incorrectes et puis sales. Que vont en penser Mme Parizeau et M. Luc Châtel?
Bon, ben alors là, j'aimerais bien qu'ils l'écoutent. Ça me ferait bien plaisir qu'ils l'écoutent, mais je pense qu'ils n'écouteront pas cette chanson. Non, non, ben, tu vois bien, là, enfin, ça fait longtemps que la chanson peut véhiculer des idées et puis de l'espoir, des combats, puis l'humour, ça sert à ça aussi, hein, c'est de démystifier les chefs, ceux qui prétendent avoir le pouvoir. Donc voilà, Parizeau, elle est dans son rôle, malheureusement, je trouve. À l'encontre du bonheur du plus grand nombre, quoi. Je veux dire, elle est là pour servir les intérêts des patrons du CAC 40 qui sont pas à la base mes pains, tu vois, même si je suis républicain et qu'il faut qu'on arrive à discuter ensemble. Ce que j'essaie d'expliquer dans cette chanson-là, c'est que c'est qu'il faut des règles, quoi. Il faut des règles et que ça fait, ben, depuis que je suis gamin, en fait, Sarkozy, bien avant qu'il soit président de la République et tout, c'était toujours, il faut libéraliser, il faut, laisser le marché contrôler, tout seul, le marché c'est la solution et tout, puis voilà, ça fait aussi plusieurs années que moi dans mon camp, enfin dans les gens que je côtoie, il y a des discours qui s'opposent à ça et qui nous racontent ce qu'on découvre depuis voilà tout le temps, quoi. Les multinationales ont les mains libres pour faire ce qu'elles veulent, elles sont plus fortes que des États parfois, la dérégulation ça c'est le gros bordel, en fait. C'est drôle que ce soit des beaux costards-cravates qui nous expliquent que c'est un gros bordel. Même les banques ne savaient même pas combien elles avaient perdu. Enfin, tu vois, moi, c'est halluciné, parce que pareil, je découvre encore tous les jours. Alors, on a la chance, Olivier et moi, que notre père a été prof d'économie une bonne partie de sa vie. Donc, on en a fait un tout petit peu à l'école, malheureusement trop peu. Et donc, voilà, des fois, on a quelqu'un à qui on peut poser des questions et qui lui-même, s'il n'arrive pas sur des trucs assez techniques, lui il a les potes qui peuvent nous aider à répondre. Mais quel domaine complètement passionnant et des fois complètement flippant.
Ouais. Alors on parlait jadis d'artistes engagés, aujourd'hui on parlait plutôt d'artistes citoyens, réveilleurs de conscience. L'engagement, toi tu sais ce que c'est puisque tu étais sur la liste Europe Écologie aux dernières élections régionales.
Ouais,
hein. C'est facile à trouver là, hein. On tape ton nom et on te trouve. Hein.
D'accord,
Michel. Tu peux pas te cacher.
Non.
Alors, contrairement à d'autres, tu assumes ton rôle d'artiste engagé et c'est tout à ton honneur.
Bah, écoute, merci. Oui, alors je veux pas en faire des kilocasses là-dessus. Moi, on a des chansons d'opinion et puis après, on a nos actions citoyennes. Là, il se trouve que c'était visible puisque pas mal de gens que je connais qui se bagarrent dans Europe Écologie en région centre sont venus vers moi parce qu'ils voulaient une liste assez ouverte, hein. C'était leur idée, hein, d'avoir pas que des responsables politiques, loin de là, c'est-à-dire des responsables associatifs, des gens du monde industriel, des profs, des commerçants et des artistes, voilà. Puis donc ils savaient que on est venu me poser la question, est-ce que tu veux être sur la liste? Et moi j'ai répondu je veux bien, mais je veux pas être élu. Ils m'ont rassuré, ils m'ont dit non, t'inquiète pas, tu seras à la fin. D'accord, oui, parce que moi c'est pas... Je suis pas capable de faire ça, moi je suis mieux à faire des chansons. Donc voilà, c'est sûr que on a des. Si on a le temps et j'avais un peu le temps de m'investir là-dedans, ça m'intéresse de dépasser juste le fait de faire des chansons. Oui.
Ouais. Alors, sur le prochain album de Volo, il est possible qu'on retrouve une chanson sur les retraites et sur la façon de partager les richesses en France?
Eh ben, ça se peut. Mais alors, ça se peut bien. C'est quand même le. À chaque fois, ben voilà. Écoute, on est en train de l'écrire, l'album. Là, on s'y prend vraiment beaucoup, beaucoup à l'avance. Les chansons d'opinion sont souvent celles qui arrivent plutôt à la fin parce que, pour pas être trop en décalage, voilà, parce que c'est des chansons souvent qui peuvent mal vieillir. Même si sur notre premier album, on continue de chanter la chanson sur le MEDEF qu'Olive a écrite, qui marche encore très bien. Il y en a d'autres qu'on va passer. Donc, est-ce qu'on parlera des retraites quand l'album sortira ou pas? Écoute, on en fait des clins d'œil quand même. Hein, on a déjà là-dessus, mais non, mais je pense que voilà, dans Volo, il y aura. Je vois pas pourquoi on s'arrêterait d'avoir ces petites chansons, parce que c'est pas que ça, Volo. Hein, t'es d'accord qu'il y a aussi plein de choses, mais
bien sûr, oui.
Mais il y aura toujours, ce petit clin d'œil, ces petites chansons d'opinion, ouais.
Ouais. On parle souvent de duo à propos de Volo sur scène, il n'en est rien, puisque désormais vous êtes trois musiciens, vous accompagnent.
Oui, ouais, ouais.
Ça a toujours été.
Écoute, ça n'a pas toujours été. En tout cas, là, on est avec basse, batterie, guitare. C'est les copains qui sont avec nous sur les albums. Batterie, Enrico Mathieu. À la contrebasse, et basse, c'est Théo Girard. Et à la guitare, c'est Hugues Bardet. Mais on a tourné il y a 2 ans sur une formule sans batterie, avec violoncelle. Voilà, on était 5 aussi, mais c'était moins rock. C'était plus acoustique. Mmh. Bien. Là, on peut retrouver quand même beaucoup plus les chansons comme elles sont faites à la base sur l'album, même si on n'a pas le clavier ou le sax, parce qu'on peut pas se balader pour l'instant à 7 en tournée sur scène, mais voilà, on va bien retrouver l'esprit.
Bien. Ah ben merci Frédéric Volovic, chanteur et guitariste du groupe Volo. Oui. On peut le dire, un groupe, d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Merci beaucoup Michel.
Rappelons que votre dernier album en date, en attendant, est sorti depuis le 14 septembre 2009. On peut se procurer un peu partout cet album?
Normalement il est toujours distribué. Ouais, ouais, ouais.
Bon, on retrouve Volo sur le net, hein, votre site www.volo.fr.
C'est ça.
Voilà. Et puis le plus important pour nous, Volo sera en concert au Festival de l'Éphémère, salle des Fêtes d'Hauteville, le vendredi 24 septembre 2010.
Eh ben super, voilà. On s'y verra ou pas? Je sais pas si t'auras le temps de passer.
Je sais pas. T'es loin, c'est loin, Hauteville, voilà. C'est au moins 40 km.
Ah oh, mon dieu, voilà.
J'exagère. Eh ben Frédéric, bonne chance pour la suite des aventures de Volo. De la famille Volovic en général, hein, parce qu'il n'y a pas que toi. Bon concert, la semaine prochaine dans l'Ain. Et puis à bientôt sur Tropic FM.
Merci beaucoup Michel, à bientôt.
Au revoir.